aujourd'hui vous parler de Léa Goldberg. Léa Goldberg, poétesse, écrivaine, traductrice, critique littéraire et professeure de littérature comparée, une chaire qu'elle-même a créée à l'Université hébraïque de Jérusalem en 1959. Léa Goldberg est née en 1911 dans une famille juive à Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, ville dont il est beaucoup question ces temps-ci. À l'époque, Königsberg est située en Prusse orientale. Léa Goldberg va grandir à Kovno, Kaunas, située dans l'Empire russe, puis capitale de la Lituanie, première capitale de la Lituanie indépendante, avant Vilno, Vilna, Vilne, Vilnius. Ses parents sont socialistes et son père maîtrise la langue et la culture yiddish, même si la langue vernaculaire à la maison est le russe. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, la famille doit quitter son domicile à cause de la proximité du front, comme de très très nombreuses familles juives qui sont très souvent soupçonnées de complicité, de duplicité avec l'ennemi. On craint que les juifs n'espionnent. La même chose va se passer pour le grand poète yiddish Avrom Sutzkever, qui lui aussi, né non loin de Vilno, à Smorgon, est obligé de partir vers la Sibérie avec ses parents. À leur retour en 1919, retour de la famille Goldberg, le père de Léa Goldberg est arrêté par la police des frontières lituaniennes et est accusé cette fois d'activisme bolchevique. Il est torturé et à sa sortie de prison, il va s'effondrer psychologiquement et va être éloigné de sa famille pendant un certain temps. En 1926, il est envoyé dans un établissement psychiatrique en Allemagne. La famille est ruinée et la jeune Léa va étudier au lycée russe de Kovno. L'établissement va devenir un lycée hébraïque avec le réseau Tarbout. C'est un réseau très très connu entre qui a surtout été opérationnel, si je puis dire, pendant entre les deux guerres. Tarbout signifie donc culture en hébreu. Et il s'agissait d'établissements secondaires, d'enseignements secondaires, où la plupart des enseignements, la majorité des enseignements, se faisaient en hébreu. Vous trouverez de très beaux passages sur le lycée Tarbout fréquenté par la mère de Amos Oz, Fania. Fania Mussmann, dans le récit, le magnifique roman d'Amos Oz, Une histoire d'amour et de ténèbres. Donc, Léa Goldberg fréquente ce lycée et commence très très rapidement à rédiger un journal intime en hébreu, journal intime auquel elle va confier qu'elle se destine à devenir une écrivaine hébraïque. Elle a d'ailleurs 15 ans lorsque son premier poème paraît dans la revue hébraïque lituanienne intitulée Netivot, c'est-à-dire Voix, Voix, V-O-I-E-S. Elle devient rapidement membre du groupe des jeunes auteurs hébraïques modernistes de Lituanie. Le groupe s'appelle Petach, autrement dit Ouverture, une sorte de succursale du groupe Ketuvim, écrit, qui se trouve alors en Palestine mandataire. Entre 1928, donc à la suite de l'obtention de sa matura, de son baccalauréat, jusqu'en 1933, elle étudie dans les universités de Kovno, de Berlin et de Bonn et se spécialise dans la linguistique sémitique. Elle achève son doctorat alors qu'elle enseigne déjà au lycée hébraïque toujours Tarbout, dans une petite ville lituanienne du nom de Reseïn. Son sujet de thèse s'intitule « La traduction samaritaine du Pentateuque, analyse des sources d'après les manuscrits ». En 1935, elle part s'installer en Palestine mandataire, donc il est clair pour vous, auditeurs, auditrices, que je parle de Palestine mandataire ou d'Eretz Israël tant que nous ne sommes pas après le 14 mai 1948, tant que l'État d'Israël n'a pas vu le jour. Donc elle part s'installer dans cette Eretz Israël et elle va adhérer à un très célèbre groupe, un groupe de poètes qui s'appelle Yahdav, qui signifie « ensemble », groupe fondé et dont font partie les deux poètes emblématiques de l'époque, Avraham Chlonsky, né en 1900, et Nathan Alterman, né en 1910, tous deux nés pas du tout en Eretz Israël. Chlonsky est né en Ukraine, Alterman est né à Varsovie, et ils sont arrivés tous les deux très jeunes, Chlonsky à 20 ans et Alterman à 15 ans, en Eretz Israël. Je reviens à Léa Goldberg. En 1935, donc l'année de son alia, de son arrivée, elle publie son premier recueil de poèmes, intitulé « Tabaot Ashan », « Les anneaux de fumée ». Elle rejoint alors le journal d'Avar, puis à la Mishmar, des journaux résolument tournés vers la gauche socialiste, des journaux qui n'existent plus aujourd'hui, et elle officie dans la rubrique littéraire. Elle travaille conjointement comme conseillère littéraire pour le théâtre national Habima et comme éditrice pour la maison d'édition Sifriat HaPoalim, qui existe toujours aujourd'hui. Sifriat HaPoalim, c'est la bibliothèque des travailleurs. En 1952, elle commence à enseigner la littérature à l'Université hébraïque de Jérusalem. Elle fait partie des fondateurs du département de littérature générale et comparée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette université. Et elle en assumera la direction de 1962 jusqu'à sa mort en 1970. Son œuvre est empreinte du sceau de la tradition culturelle de l'Europe centrale et occidentale. Elle en réunit le classicisme et le modernisme, un alliage bien plus rare dans la poésie de ses contemporains. Elle demeure imprégnée, malgré tout, de la culture russe dans laquelle elle a grandi et qu'elle a découverte dès son plus jeune âge. La poésie d'Alexandre Bloch lui est particulièrement proche, ainsi que celle des deux grands poètes de langue allemande, Rainer Maria Rilke et Hugo von Hofmannsthal. En parallèle, elle a lu la poésie de Chaim Nachman Bialik. Chaim Nachman Bialik, le grand poète de l'hébreu moderne, considéré comme le premier poète de la langue hébraïque moderne et influencé entre autres par Baudelaire. Et elle est influencée également par l'écriture de Uri Nissan Gnessin, l'un des tout premiers prosateurs de l'hébreu moderne, très influencé lui-même par Tchekhov, Cette influence triangulaire du russe, de l'allemand et de l'hébreu est sensible dès ses premiers poèmes. Comme la plupart des femmes juives de cette époque, elle ne reçoit pas d'éducation juive traditionnelle et rares sont les allusions dans son œuvre aux sources juives. Contrairement à ses contemporains en littérature hébraïque, l'univers intellectuel de Léa Goldberg s'appuie sur une formation universitaire, humaniste et littéraire. Au début des années 50, elle étudie la littérature de la Renaissance européenne, en particulier la poésie latine et italienne, et se spécialise dans l'œuvre de Dante et de Pétrarque, dont elle va traduire bon nombre de poèmes. La poésie demeure son terrain de prédilection, même si elle écrit également du théâtre et de la prose. Dans sa jeunesse, elle compose de la poésie en russe, mais dès qu'elle adopte l'hébreu comme langue d'expression, elle n'écrira plus dans aucune autre langue. Un dixième environ des quelques 700 poèmes qu'elle publie sont des sonnets. C'est un genre que la poétesse affectionne particulièrement et sa contribution est la plus importante après celle de Shaul Tchernikhovsky, alter ego de Bialik et l'un des poètes les plus importants à l'époque de la naissance de l'hébreu moderne au début du XXe siècle. Les sonnets de Léa Goldberg, eux, innovent par leur vitalité et les structures inédites que la poétesse insuffle aux formes traditionnelles de la poésie occidentale, telles l'élégie. La poétesse s'est beaucoup inspirée des sonnets à Orphée, composés en 1922 par Rainer Maria Rilke. Elle préfère la construction et la rime de Pétrarque à celle du sonnet shakespearien, mais elle adopte la métrique du sonnet anglais, le maître iambique qui correspond mieux à l'accentuation de l'hébreu moderne, à savoir l'accent sur la dernière syllabe. Je cite Masha Itzraki dans un article intitulé « Maintenant et à jamais, quelques regards sur la poésie hébraïque contemporaine » publié à Paris dans les presses de l'INALCO en 2019. La plupart des chercheurs israéliens, écrit Masha Itzraki, insistent sur les deux pôles contradictoires des sonnets de Léa Goldberg, l'ouverture et la fermeture, le lointain et le personnel, l'épique et le lyrique. C'est une des raisons pour lesquelles l'enjambement, procédé métrique fondé sur l'inadéquation entre la syntaxe et le maître d'un vers, est très souvent présent dans ces vers, dans ces textes. Autrement dit, elle respecte la rime, mais elle joue avec le rythme et propose ainsi deux lectures, l'une suivant la rime et l'autre suivant la syntaxe, chacune mettant en avant une interprétation différente. Masha Itzraki cite Léa Goldberg dans un entretien de 1962. Je cite donc « Celui qui a lu mes sonnets le sait. J'ai utilisé cette structure si classique pour des objectifs peu classiques. J'ai travaillé toutes les variantes connues, le sonnet non rimé inclus. Cette forme si sévère impose un questionnement sans répit. Chaque mot est-il vraiment à sa place ? Un mot, un seul, de trop, peut tout détruire. » Fin de citation. Elle aborde les thèmes de la solitude et de la rupture de relation avec des intonations parfois tragiques. Son thème, son travail est profondément ancré à la fois dans la culture occidentale, par exemple son Odyssée, et dans la culture juive. Certains de ses poèmes les plus connus ont pour sujet la nature et la nostalgie de son pays natal. Ainsi, dans « Poème du pays de mon amour », Shirei Eretz Ahavati, la terre évoquée ici est celle de l'Europe orientale. Ma terre, pays de splendeur et de misère, pour la reine, pas de maison, pour le roi, pas de couronne, au long de l'année, 7 jours de printemps, et tempête et pluie, tout le restant. Voici quelques exemples des principaux recueils qu'elle a publiés en hébreu. Donc après les anneaux de fumée, suivent « L'épi à l'œil vert » en 1940, « Shibolet Yerukata Ain », puis en 1942, « Shir Bakfarim », poème de la campagne, « Mi Beiti Ayashan » de ma vieille maison, « Al Aparicha » éclosion en 1948, « Ahavat Shimshon » l'amour de Samson, « Barak Baboker » l'éclair au petit matin, « Mukdam Omeuchar » tôt ou tard, « Im Alayla Hazé » cette nuit-là. L'œuvre de Léa Goldberg comporte également une grande part de poèmes pour la jeunesse et la petite enfance. Ainsi, « Que font les gazelles la nuit ?» Les gazelles, la nuit, jouent aux billes, c'est bien connu. Elles jouent aux billes avec les éléphantes. Et devinez qui va gagner, des biches ou des éléphantes ? Il y a également le très joli poème chanté « La flûte » et le refrain à la jacinthe, lorsque la jacinthe reçoit la pluie bienfaisante dès l'automne. Maîtrisant 7 langues, Léa Goldberg a également publié de nombreuses traductions de littératures européennes en hébreu, parmi lesquelles Shakespeare, Tolstoï, Pirandello, Molière, Ibsen, sonnets de Dante et de Pétrarque, comme nous l'avons vu, et des nouvelles de Tchekhov. Enfin, Léa Goldberg a publié 2 romans, un de 1937, « Lettres d'un voyage imaginaire »,« Mirtavim Minesia Meduma », et l'autre en 1946, « Vehu Aor », traduit en 2019 en français et sur lesquels je vais m'attarder tout de suite, 2 ouvrages en grande partie autobiographiques, ainsi également qu'une pièce de théâtre, « Baalat Harmon », datant de 1954, « La Châtelaine », qui porte sur l'identité perdue puis retrouvée des rescapés de la Shoah grâce à Israël. Au regard de l'importance majeure de son œuvre poétique en langue hébraïque, Léa Goldberg a été très peu traduite en français. On trouve quelques poèmes disséminés dans une brochure publiée dans les années 70, Le chant ininterrompu, choix de poèmes d'Israël, traduit et présenté par Francine Kaufmann et publié par le Centre pédagogique de l'Organisation sioniste mondiale, puis dans trois anthologies de poésie générale, publiées chez Albin Michel en 1960, Poèmes israéliens d'aujourd'hui, traduits de l'hébreu par Nicolas Lazar, par les éditions Caractère en 1984, Chants d'Israël, anthologie de la poésie hébraïque moderne, éditée par Nicole Gedalia, puis par les éditions Gallimard, une anthologie de la poésie en hébreu moderne, en 2001, ainsi que dans une anthologie de poésie hébraïque féminine en 2008. En 2023, sortira une anthologie publiée par les presses de la Sorbonne Nouvelle, une anthologie, un large choix en bilingue de poèmes de Léa Goldberg. Mais j'aimerais revenir à présent sur le roman « Alors vient la lumière » et pour vous donner un petit peu à entendre la poésie de Léa Goldberg, voici un chant, un poème, « Mon fleuve » sur une musique de Sacha Argov, interprété par moi-même. Mon ami était beau entre mille, vif, élancé, chevelure de flamme. Il m'a fait tant et tant de serments. Au printemps, je reviendrai avec les cigognes. On cueillera du millet, des framboises rouges, un plein panier, il m'a promis. Au piano, Laurent Greenspan. Lorsqu'en 1946, le roman de Léa Goldberg, Alors vient la lumière, Verrou à or, voit le jour, il ne laisse pas une impression inoubliable sur le public des lecteurs de la Palestine mandataire. Dans ces années-là, il faut dire que la littérature hébraïque d'Eretz Israël est tout entière dévolue à la lutte nationale et à la fabrication de la figure du Tzabar, donc ce jeune hébreu tout neuf. Une nouvelle génération d'écrivains décrit dans ses œuvres des héros caractérisés par leur beauté et leurs célèbres mèches de cheveux qui leur tombent sur le front, Yefei Hablorit Vehatohar, comme le célèbre Chaim Goury dans son poème Amitié. Le roman de Léa Goldberg, à la fois très psychologique et très européen, ne parvient pas à trouver sa place dans cette nouvelle atmosphère culturelle qui prélude à la création de l'État. Quelques 60 ans plus tard, lors de la réédition de Verrou à or en Israël, on ne peut que constater la réussite de ce grand roman d'éducation, écrit par une femme, une poétesse, qui insistait tant pour qu'on l'appelle Sofer écrivain et non Soferet au féminin. Suivez mon regard. Ce roman a été donc traduit en français par Olivier Bosseau et publié chez H&O Éditions dans la collection Les Nouveaux Horizons. Et pour tous ceux, toutes celles, désireux, désireuses, de découvrir un aspect méconnu de la littérature hébraïque contemporaine, je ne peux qu'en conseiller vivement la lecture. Léa Goldberg, comme nous l'avons retracé tout à l'heure, Léa Goldberg a écrit dans presque tous les genres littéraires possibles. En plus de ses poèmes, eux-mêmes extrêmement diversifiés, puisque, on l'a vu, on y trouve des sonnets et des ballades, formes qu'elle a contribué à faire renaître en hébreu, elle publie donc ce roman, un ouvrage épistolaire, des mémoires, rencontre avec un poète, un recueil de nouvelles, Pêche, et donc la pièce de théâtre que j'ai mentionnée. Léa Goldberg n'a pas rencontré le succès dans tous ses genres littéraires. Ses poèmes ont été absorbés dans le cycle de la littérature hébraïque et l'ont figé dans le statut de poétesse, une sorte de côte d'Adam au sein de la troïka poétique Schlonsky-Altermann-Goldberg. Ses œuvres pour la jeunesse sont devenues des classiques. Quant à sa prose, passionnante, elle a été marginalisée et n'a jamais fait l'objet de l'intérêt qu'elle méritait plus que largement. Cette création polyvalente ou polygenre a permis à Léa Goldberg de jouer sur différentes variations de son moi. Dans sa poésie, nous l'avons vu, Goldberg tente à s'éloigner de l'élément autobiographique. Même un poème comme Tel Aviv 1935, très célèbre, dans lequel elle dépeint les toutes premières impressions de son arrivée en Eretz Israël et sa rencontre avec la ville hébraïque, est composé d'expressions qui sont aux antipodes de l'autobiographie. Je cite, dans le désordre, « Sur les toits des maisons, les mâts semblaient alors comme les mâts des nacelles de Christophe Colomb. Les flots de voyageurs déferlaient dans la rue. » Comment se peut-il donc que dans la petite ville, l'air charrie tant et tant de souvenirs d'enfance, d'amour morte, de chambres désertées, comme dans la chambre noire d'un appareil photo, se sont inversées les nuits pures de l'hiver, les nuits pluvieuses de l'été d'outre-mer. Et lorsqu'un bruit de pas tambourine derrière soi, marche militaire d'une armée étrangère, on dirait qu'en tournant à peine un peu la tête, le clocher de sa ville flotte dans la mer. Le pronom personnel « je », « ané » en hébreu, ne figure pas dans le poème. Seul le pronom « ata », « tu », masculin, qui est utilisé en lieu et place de l'impersonnel « on », y figure. Cette suppression de tout signe biographique souligné par l'absence du « je » et par le changement du pronom grammatical féminin en masculin est tout à fait révélatrice de la conception poétique de Léa Goldberg. Dans son ouvrage de jeunesse, « Lettres d'un voyage imaginaire », l'héroïne Ruth, double de l'écrivain, écrit « Je ne suis pas une jeune fille qui écrit des poèmes. Un poème est un poème, et quant aux jeunes filles qui écrivent des poésies dès leurs 15 ans et jusqu'au jour de leur mariage, il faut leur enseigner à cuisiner et les envoyer faire une promenade deux fois par jour. C'est ce qui est le plus utile. Et pour celles qui n'ont pas trouvé leur idéal en la personne d'un mari parfait et se vengent sur une innocente feuille de papier, il faut les traiter en malade mentale. » Fin de citation. Si ces lignes sont écrites par une jeune fille de 26 ans dans une interview de la poétesse, en 1969, environ un an avant sa mort, elle s'exprime en des termes analogues. Citation. « Il y a quelque chose que je n'aime guère dans toute cette galerie des femmes. Une femme est écrivain ou elle ne l'est pas. Je serai toujours reconnaissante à Yaakov Fichman, c'est un critique célèbre, de l'article qu'il a publié sur mon premier recueil de poésie. Il l'a intitulé, en parlant de moi, « Un nouveau poète ?» Point d'interrogation. On ne peut donc que s'étonner, à la lecture du roman « Alors vient la lumière », publié en 1946, et constater qu'il s'agit d'une œuvre extrêmement personnelle et très féminine, où l'auteur aborde de manière frontale des thèmes jamais abordés jusque-là, comme la folie de son père, que j'ai évoqué au début de cette émission. Le récit très bref et très condensé qu'elle en fait dans le roman est néanmoins déterminant dans le comportement de l'héroïne Nora, le double de Léa Goldberg, qui fait donc le récit d'un souvenir d'enfance traumatique à l'origine de toutes les difficultés qu'elle va vivre dans sa vie de jeune femme. Je consacrerai donc la prochaine émission à évoquer ce roman, Vehu Aor, alors vient la lumière.